Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Des centaines de personnes, dont des femmes et des enfants, sont prises en otage dans des villages chrétiens en Syrie. Sans électricité, sans eau, sans moyens de communication, il manque de nourriture et de médicaments. L'Église orthodoxe a lancé un appel de détresse que nous répercuterons dans ce magazine. Aung San Suu Kyi au Vatican, l'opposante birmane, a été reçue par le pape François. Il a salué son engagement non violent pour la paix et la démocratie, qui figure, a-t-il dit, parmi ses propres priorités. Les Indiens d'Amazonie sont menacés par des exploitants cupides qui mettent en danger la planète en saccageant un écosystème précieux. Répondant aux souhaits du pape François, l'église de la région se réunit pour la première fois ces jours-ci à Manaus. Aung San Suu Kyi a été reçue en audience par le pape François ce lundi en fin de matinée. Au cours d'un entretien d'une vingtaine de minutes dans la bibliothèque du palais pontifical, les deux interlocuteurs ont exprimé leur syntonie fondamentale sur la paix et la démocratie. Le pape argentin prie pour la Birmanie ainsi que pour le dialogue interreligieux dans ce pays où les catholiques sont très minoritaires mais où les tensions sont fortes entre bouddhistes et musulmans. Olivier Tosserie.
C'est sa deuxième visite dans la capitale italienne, la première depuis plus de 40 ans. Une visite qu'elle a qualifiée de mémorable. La dirigeante de l'opposition birmane est venue à Rome pour y recevoir la citoyenneté honoraire de la ville. Cette décoration lui avait été décernée en 1994 par la ville de Rome pour son engagement non violent en faveur de la démocratie et des droits de l'homme. Un engagement mené au prix de sa propre liberté et au risque de sa vie. À l'époque, cette figure historique de l'opposition birmane était assignée à résidence par la junte militaire. Et c'est une cérémonie pleine de joie et d'émotion qui s'est déroulée dimanche dans le salon Jules César du Capitole. « Je n'ai rien fait de spécial », a-t-elle déclaré devant les plus hautes autorités de Rome. « J'ai fait ce en quoi j'ai cru. Ma vie est une vie de choix, pas de sacrifice ». Aung San Suu Kyi a averti dans son discours que des changements profonds étaient encore nécessaires dans son pays. Pour elle, la réforme la plus urgente concerne la Constitution. Elle s'efforce aussi d'obtenir des soutiens financiers pour son projet de restauration de la polyclinique de Rangoon. Son pays, la Birmanie, a besoin de réconciliation après tant d'années de division et d'amertume.
Toujours ce lundi matin, le pape François a également reçu le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim. Cet Américain d'origine sud-coréenne qui a pris la tête de la Banque mondiale il y a un peu plus d'un an, s'est fixé pour priorité de ramener en dessous de 3% de la population mondiale en 2030 la part des personnes vivant avec moins de 1,25 $ par jour. Le Vatican a fait des pas importants en matière de transparence financière. L'agence de notation indépendante Standard Ethics a élevé la note de l'état de la cité du Vatican. L'écart s'est réduit entre le Vatican et les demandes internationales en matière de transparence financière, en particulier en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, les délits financiers et le financement du terrorisme. La loi promulguée le 8 octobre dernier est considérée comme un pas significatif. Le Vatican est ainsi sorti d'un groupe de pays dont font partie, à titre d'exemple, le Brésil et la Pologne, et est entré dans le groupe dont font partie, entre autres, le Japon et l'Italie. Je vous le disais en titre, des milliers de Syriens, hommes, femmes et enfants, sont actuellement encerclés dans les villages chrétiens de Sadad et d'Ofar, situés à 70 km à l'est de la ville de Homs. L'archidiocèse syro-orthodoxe de Homs et Hama a lancé un cri de détresse. Le village assiégé de Sadad comptait 15 000 habitants. La plupart de ceux qui ont pu fuir se sont réfugiés à Homs, où les jésuites ont mis en place une aide d'urgence. 1 500 personnes sont toujours encerclées. Les assiégeants les empêchent de sortir de chez elles. Hélène Destombes a joint le père syrien Ziad Hilal à Homs. Il s'est entretenu ce lundi matin au téléphone avec l'évêque syrien orthodoxe.
Il y a quelques jours, il y a des rebelles qui sont venus au village de Sadad et à côté à Hafar, où la majorité, ou on peut dire tous, sont des Syriens catholiques ou orthodoxes, des chrétiens. D'après l'évêque syriaque orthodoxe, il y a à peu près 15 000 personnes qui ont quitté les deux villages qui sont venus à Homs ou à l'entourage. Il y a à peu près, jusqu'à aujourd'hui, il y a 15 morts. Et d'après aussi l'évêque syriaque orthodoxe, il en reste 10 morts dans le village qu'il n'arrive pas à les faire sortir pour l'enterrer ici à Zeidal ou à Feyrouzeh. fait, il reste, d'après lui aussi, 1500 personnes qui sont à l'intérieur. Il y a deux familles qui sont disparues. Il y a sept personnes de la même famille, dont quatre enfants, qui sont disparus, on ne savait pas où. Donc, la situation est très difficile. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de téléphone. Donc, on n'a pas beaucoup de nouvelles. On ne sait pas comment ils vivent. Et la plupart qui sont sortis ici à Zayed al-Fayrouzé, il y a l'aide humanitaire maintenant, il y a les associations qui sont en train d'aider tous ces membres qui sont venus tout d'un coup.
Est-ce que la communauté catholique s'est associée à cet appel du métropolite Silouanos?
Comme communauté catholique, nous sommes présents comme église grecque catholique, comme église syriaque catholique et église latine, parce qu'en fait, il y a des catholiques aussi qui sont dans les deux villages. Donc, on est en train de voir comment on peut l'aider. Nous sommes présents main à main avec Monseigneur Silouanos. Mais en même temps aussi, je voudrais souligner que l'église de Yabroud, c'est la troisième fois qu'elle était attaquée par plusieurs mouvements.
Quelle est aujourd'hui la situation des chrétiens dans cette région? Est-ce qu'ils sont plus que jamais menacés? La situation empire chaque jour encore davantage?
Je ne sais pas si les chrétiens sont menacés, mais ce que je voudrais dire, que la situation des habitants de la Syrie, des citoyens, devient de plus en plus délicate. On perd chaque jour dizaines de morts qui sont proches de nous. On le connaît à Homs il y avait quelques jours, une voiture piégée juste à côté de notre résidence, à peu près à 700 mètres où il y avait plusieurs morts, plusieurs blessés. Il y avait quelques bombes qui sont tombés à 200 mètres de notre église aussi, où il y avait deux dames et un homme de notre paroisse qu'on connaît très bien qui sont morts. Donc la situation de plus en plus dangereuse.
L'émissaire de l'ONU et de la Ligue arabe, Lakhdar Brahimi, est arrivé ce lundi à Damas pour tenter de préparer la conférence dite de Genève 2. Comment est perçue cette visite à Damas de Lakhdar Brahimi et est-ce que beaucoup espèrent en la tenue de cette conférence? Est-ce qu'elle peut véritablement changer quelque chose à la situation?
Je pense qu'il n'y a que la solution pacifique pour arrêter la guerre, pour arrêter la violence. Donc, pour nous, on encourage la mission de M. Lakhdar Brahimi afin d'associer tous les côtés et trouver un chemin ou une sortie pour notre pays.
C'était le père Ziad Hilal, joint par téléphone à Homs, en Syrie. À Paris, un rassemblement silencieux a été organisé dimanche pour dénoncer les violences, la discrimination et la haine contre les Coptes en Égypte. La dernière attaque meurtrière, survenue le 20 octobre devant une église du Caire, a accentué le sentiment d'insécurité des chrétiens d'Égypte. Ces tensions pourraient être encore exacerbées par le procès du guide suprême des frères musulmans Mohamed Badi et de ses adjoints qui débute ce mardi. La ville brésilienne de Manaus accueille une rencontre de l'église catholique d'Amazonie, la première du genre. Elle rassemble des évêques, des laïcs, des agents de la pastorale et des responsables d'institutions de 6 régions de la conférence des évêques brésiliens. La réflexion porte sur le contexte politique, social, économique, culturel et religieux de cette région. L'église catholique veut renforcer sa contribution à la promotion et à la défense des habitants de cette région du monde et de sa riche biodiversité. Olivier Bonnel.
En 2012, l'Amazonie a encore perdu 487 km² de forêt. Son riche écosystème, essentiel pour la chaîne écologique mondiale, est menacé de disparition avec des conséquences dramatiques pour les quelques 30 millions d'autochtones qui vivent sur leurs terres ancestrales. L'immense barrage de Belo Monte, au cœur de la forêt amazonienne, est au centre de vives polémiques en raison de l'impact qu'il pourrait avoir sur la survie des Indiens, de leur culture et de leur environnement. Lors de son voyage au Brésil en juillet dernier, à l'occasion des JMJ, le pape François avait lancé un appel pressant en faveur de l'Amazonie, une urgence écologique, sociale et pastorale pour les chrétiens. L'Amazonie est un test révélateur, un banc d'essai pour l'Église et la société brésilienne, avait-il déclaré en invitant les évêques brésiliens à faire preuve de courage et à protéger la création que Dieu a confiée à l'homme, non pas pour qu'il l'exploite sauvagement, mais pour qu'il la fasse devenir un jardin. La réunion de Manaus est une réponse à cet appel. L'Église est présente en Amazonie depuis longtemps. Elle joue un rôle déterminant pour l'avenir de cette région, notamment par le biais de la Commission épiscopale pour l'Amazonie, instituée en 1997 et qui a déjà donné beaucoup de fruits. Mais le pape François désire que son action soit consolidée. Il a suggéré, entre autres, l'envoi de formateurs qualifiés pour la mise en place d'un clergé autochtone et pour renforcer, a-t-il dit, le vrai visage amazonien de l'Église.
Aux États-Unis, le nombre des baptêmes et des mariages religieux est en baisse. Selon une étude indépendante, les Américains sont certes en quête de Dieu, mais ils n'ont pas confiance dans les églises, toutes confessions confondues. Un Américain sur cinq affirme désormais ne pas avoir d'identité religieuse et ceux qui se disent chrétiens pratiquent de moins en moins. Malgré l'afflux important d'immigrés catholiques venus d'Amérique latine, considérés comme un réservoir de religiosité, le nombre des mariages célébrés dans les églises catholiques des États-Unis a fortement chuté, passant de 426 000 en 1970 à 164 000 en 2011. Les sacrements comme le baptême subissent le contre-coup d'une culture méfiante vis-à-vis des institutions, à commencer par le clergé, et qui tente à privilégier une foi indépendante de toute dénomination religieuse. Les immigrés latino-américains eux-mêmes, qui constituent aujourd'hui 34% des catholiques des États-Unis, tendent à adopter rapidement la mentalité dominante. De plus, le nombre des mariages mixtes a sensiblement augmenté, atteignant un foyer sur quatre. Pour éviter les divergences, les conjoints choisissent souvent d'éviter d'inculquer une des deux religions à leurs enfants. Le progrès des droits de l'homme, leur promotion et leur protection passent d'abord par la coopération et la solidarité. Le pape Jean XXIII avait déjà mis cette idée en avant dans son encyclique Pacem in Terris, dont on vient de fêter le 50e anniversaire. À la lumière de ce texte inédit pour l'époque, le message de l'Église ne cesse de donner tout leur sens, toute leur profondeur, au terme de coopération, de solidarité, d'organisation, de communauté, d'humanité, imposant ainsi une nouvelle lecture du vocabulaire international. Il faut ainsi souligner le rôle pionnier de l'Église dans une société qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, restait divisée et où l'idée de coopération internationale était loin de s'imposer. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui souhaitent une réforme des Nations Unies, le Vatican en premier lieu. Alors peut-on vraiment réformer cette institution? Élément de réponse avec Emmanuel Decaux, professeur de droit public à l'Université Paris 2 Assas. Il est membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.
Les Nations Unies devraient être réformées tout le temps et il y a toujours des processus de réforme. Il faut être prudent parce que parfois on fait des réformes et on recule. Donc il faudrait faire des réformes, mais avec des objectifs précis pour renforcer la coopération, donner plus de moyens, plus de légitimité, plus d'efficacité aux Nations Unies. Alors, on ne peut pas en discuter en général, mais il faut regarder secteur par secteur. Dans le secteur des droits de l'homme, Madame Pillay, le haut-commissaire aux droits de l'homme, a lancé un processus de renforcement du système des traités. Il y a une dizaine de traités qui sont les gardiens des droits de l'homme. Elle essaye de préconiser des moyens de coordination pour rendre ces traités plus efficaces. Parallèlement, les États à l'Assemblée générale ont repris le sujet, mais plutôt avec l'idée d'adapter les moyens au but. Or, dans le domaine des droits de l'homme, c'est... Les buts qui doivent prévaloir et pas les moyens qui doivent être prioritaires.
Qu'est-ce que c'est justement la coopération internationale? Comment est-ce qu'il faut la comprendre?
Il y a plusieurs formes de coopération. La vraie coopération dans l'esprit de l'encyclique Pacem in Terris et puis des encycliques suivantes comme Populorum Progressio, c'est vraiment que tous les acteurs se mobilisent pour travailler en commun dans la même direction avec l'idée de bien commun ou d'intérêt commun. Alors, dans le cas des Nations Unies, c'est plus compliqué parce que la coopération, ça veut dire de discuter. Mais est-ce qu'il y a la même finalité? Parfois, on peut en douter. Mais dans les textes de base des Nations Unies, la charte, la déclaration universelle, les pactes sur les droits civils et politiques et puis sur les droits économiques, sociaux et culturels, on met l'accent sur l'obligation de coopérer des États. Or, on s'aperçoit concrètement que des États ne coopèrent pas avec les mécanismes des Nations Unies.
Comment vous le comprenez, vous, le message de l'Église dans tout ça, notamment le message de Pacem in Terris? Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui pour vous?
Oui, plus que jamais, parce que c'était très difficile de dire ça en 1963, lorsqu'il n'y avait pas un réseau juridique historique très fort. Si on regarde ce qui existait dans le domaine des droits de l'homme en 63, il y avait la Déclaration universelle, il y avait quelques déclarations, comme la Déclaration de 59 sur les droits des enfants, mais il n'y avait aucun traité. Le premier grand traité, c'est en 65, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Après, en 66, il y a eu les deux pactes. Donc, les bases juridiques étaient très fragiles. Maintenant, on a des textes de référence qui correspondent à des obligations juridiques pour les États. C'est du droit dur. Il y a des mécanismes qui sont perfectibles, mais qui existent. Les États doivent rendre des comptes à des experts indépendants. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle le droit mou, c'est-à-dire toute une interprétation du droit positif qui est un développement permanent. Je pense à des nouveaux travaux sur l'extrême pauvreté, sur la responsabilité des entreprises. Il y a toute une réflexion, toute une prospective qui permet d'aller plus loin. Et je crois que tout ça, c'est la matrice qui est dans Pacem in Terris.
Évidemment, quand on pense aujourd'hui Pacem in Terris, on pense au message de Pacem in Terris, on pense évidemment ce qui nous saute aux yeux, c'est la crise syrienne qui se déroule en ce moment. On voit que les Nations Unies ont du mal, les pays à l'intérieur des Nations Unies ont du mal à se mettre d'accord. Comment est-ce que ça peut évoluer positivement le système, le mécanisme onusien pour permettre justement un déblocage de ce type de crise?
Alors, c'est une crise qui évolue au jour le jour, donc c'est difficile de se prononcer maintenant. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on est repassé par la diplomatie et c'est la seule voie pour trouver une solution. Il n'y a pas de solution militaire dans une guerre civile comme celle-là, sauf de multiplier les victimes. Il n'y a que des solutions politiques. Alors, il faut le faire dans un cadre juridique très, très précis, et notamment en respectant le droit international. Donc les crises permettent aussi un développement du droit. Ce n'est pas facile de faire les inspections dans un pays en guerre civile avec sans doute les implantations qui ont été dispersées. Mais encore une fois, il y a des obligations juridiques. Et à la fin des fins, il y a une responsabilité non seulement internationale de l'État, mais aussi une responsabilité pénale des individus. Alors parfois, ça prend du temps, ça met 10 ans, 20 ans, mais maintenant, il y a une justice pénale internationale qui existe, qui est donc une sorte d'épée de Damoclès. Et ces crimes sont des crimes imprescriptibles. Donc un jour, il faudra rendre des comptes. J'aime pas du tout l'expression de dire il faut punir le régime, punir les responsables du régime, mais il faut les mettre devant la justice. Et c'est la justice du droit, c'est pas la justice des justiciers.
Emmanuel Decaux, professeur de droit public à Paris, interrogé par Thomas Chabol. Le centre de télévision du Vatican fête ses 30 ans d'existence. Le pape François a accordé ce lundi matin une audience à ses dirigeants, employés et collaborateurs, accompagnés de leur famille. Il les a remerciés de la discrétion et du dévouement avec lesquels ils accompagnent toutes ces activités publiques. Le pape, a-t-il lancé, ne veut pas encombrer votre vie familiale, mais il vous remercie de votre patience. Le souverain pontife leur a par ailleurs parlé des défis technologiques auxquels on ne saurait se soustraire. Et il leur a livré deux recommandations. Il est d'abord essentiel, selon lui, de jouer en équipe. Il en va de l'efficacité de la pastorale, de la communication et du témoignage de communion. Et puis, il faut être des professionnels au service de l'Église. Selon le Saint-Père, tout peut être accompli avec une perspective ecclésiale, qui est celle du Saint-Siège. Le centre de télévision du Vatican, a-t-il dit, doit parvenir à transmettre le parfum et l'espérance de l'Évangile. On ne peut pas faire grand-chose tout seul, mais ensemble, on peut être au service du monde entier en répandant la vérité et la beauté de l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. C'est au pape François que sera dédié cette année à Rome le Festival international de musique et d'art sacré qui démarre ce mardi et qui se poursuivra jusqu'au 10 novembre. La messe à Buenos Aires du compositeur argentin Martin Palmeri, exécutée en l'église Saint-Ignace de Loyola, donnera le coup d'envoi de la manifestation ce mardi. Rebaptisée messe tango, cette messe est une composition qui reprend des éléments caractéristiques du tango de Buenos Aires, la ville natale du premier pape argentin de l'histoire. Un hommage donc au nouveau pontificat. Pour cette 12e édition, le programme est riche, Mozart, Vivaldi, Nino Rota et des interprètes de renom, dont le chœur synodal du patriarcat de Moscou. Ce festival a été institué en 2002 pour contribuer à la diffusion de la musique sacrée et collecter des fonds en vue de la restauration des trésors artistiques de l'art sacré de la ville éternelle. Parmi les projets présentés cette année figure la restauration des statues de Saint-Pierre et de Saint-Paul de la Basilique Vaticane. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican. En français, merci de votre fidélité.